RFI, plus d'infos sur RFI.fr. Idée. Une émission proposée par Benoît Ruel. Seconde partie.
Et je suis toujours en compagnie de Daniel Ben Saïd, né en 1946 à Toulouse, un des théoriciens du mouvement trotskiste en France, philosophe, maître de conférences à l'université de Paris 8, directeur de publication de la revue Contre-temps et de la collection Discorde aux éditions textuelles. Daniel Ben Saïd qui vient de publier chez Albin Michel un éloge de la politique profane. Profane, le mot est important car affirme notre invité, quand la politique est à la baisse, la théologie est à la hausse. Quand le profane recule, le sacré prend sa revanche. Quand l'histoire piétine, l'éternité s'envole. Daniel Ben Saïd, vous l'avez compris si vous avez écouté la première partie de ce numéro d'idées, ne porte pas dans son cœur la gauche représentée par le Parti Socialiste Français, une gauche recentrée et frelatée. Il croit toujours à la lutte des classes, à la grève et aux syndicats, et s'il cite beaucoup Charles Péguy, Marx reste en embuscade. L'avertissement lancé par Daniel Ben Saïd, si vous ne voulez plus des classes ni de leur lutte, vous aurez les plèbes et les multitudes anomiques. Si vous ne voulez plus des peuples, vous aurez les meutes et les tribus. Si vous ne voulez plus des partis, vous aurez le despotisme de l'opinion. La subordination de la politique à une démarche inéluctable du progrès historique eut hier pour résultat de forclore la question de la justice sociale. La subordination de la décision démocratique à la volonté anonyme des marchés aboutit aujourd'hui au même résultat. Aussi, rappelle Daniel Ben Saïd, affirmer le primat de la politique profane bien sûr, sur l'histoire et sur l'économie, c'est rouvrir au contraire les questions de la justice et de l'égalité qui sont ses véritables enjeux. Daniel Ben Saïd, avant la pause, je vous demandais si nous n'assistons pas actuellement à la disparition de la politique redoutée en son temps par Hannah Arendt. Vous nous avez dit que ça n'était pas exactement ça, mais on pouvait le craindre. Mais cette éclipse, au fond, redoutée de la politique, elle ne date pas d'aujourd'hui.
Non, c'est même une banalité depuis quelques années de parler de crise de la politique, de crise de la représentation. Mais on impute cette crise principalement en général à la professionnalisation de la politique, au tempérament ou au mensonge des hommes politiques. En réalité, je crois que la raison est beaucoup plus profonde. Elle tient, comment imaginer finalement les enjeux réels d'une politique dans un monde où l'espace public s'atrophie et se rétrécit à vue d'œil, sous l'effet de la privatisation du monde. Et ça, je crois que c'est réellement l'enjeu aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure, est-ce que parler de révolution a encore un sens? Eh bien, si on l'imagine comme un remake des grandes révolutions lyriques ou épiques du XXe siècle, qui sait? Personne ne sait quelle forme pourraient prendre des révolutions ou des changements révolutionnaires au XXIe siècle. En revanche, on en connaît au moins certains éléments de contenu. C'est-à-dire que quand je parle de privatisation du monde, il s'agit de la privatisation de la monnaie, à partir du moment où elle est soustraite à la décision des corps élus, des institutions élues, pour être confiée à une banque centrale autonome. Privatisation des espaces, on a de plus en plus d'enclos urbains et de rues privatisées, je connaissais ça en Amérique latine, ça commence en Europe. Privatisation du vivant, par le biais du brevetage qui prend des proportions aujourd'hui considérables, et privatisation aussi des connaissances et du savoir, puisque les langages eux-mêmes, notamment les langages informatiques, sont brevetables. Et enfin, privatisation de la violence, quand on sait qu'en Irak, à peu près un quart des effectifs engagés sont des effectifs mercenaires. Quand, à ce point-là, ce qui faisait la substance de l'espace public est vidé de contenu, évidemment, la politique n'a plus prise. Et on a le discours d'impuissance des gouvernants, hier de Jospin disant « on peut rien faire contre Michelin qui licencie ou contre la fermeture de Villevorde ». Et tout récemment, Nicolas Sarkozy disant « mais bon, si les caisses sont vides, il y a un devoir de non-ingérence de l'État dans les lois du marché.
Dites Daniel Ben Saïd, on va beaucoup parler de mai 1968 cette année. Ce fut un temps fort pour la politique ou un tournant plus contradictoire qu'il n'y paraît?
Mai 68 a eu le sort comme tous les événements, soit un événement est par définition une bifurcation à partir du moment où 68 n'a pas été poussé, et là on rentre dans l'interprétation politique, au bout de ses possibles, le thème de la récupération, finalement, ça devient un facteur de régulation et de rénovation de la société comme telle. On se souvient de la réforme des mœurs, de ce qu'on appelle maintenant, le mot n'existait pas ou peu à l'époque, les réformes sociétales, mais on refoule finalement le souvenir de ce qui fait l'originalité de 68, c'est d'avoir été la grève générale la plus longue probablement et la plus massive de l'histoire de ce pays, et peut-être même, pour toute proportion gardée, dans le monde entier. Alors, c'est pas un événement clos aujourd'hui, ça reste un enjeu d'interprétation, de savoir quelles étaient les potentialités, comment le lire, et on a bien vu d'ailleurs, d'anniversaire en anniversaire, de décennie en décennie, l'interprétation se déplaçait. C'est devenu, en 88, sous le régime Mitterrand, c'est devenu l'autocélébration de la génération 68arde, enfin parvenue, mais dans quel état aux affaires. En 98, c'était 68 comme creuset ou point de départ d'une grande réforme libérale. Bon, voilà, maintenant on verra ce qu'est le 40e anniversaire.
Alors, lister un certain nombre d'utopies contemporaines, vous les dénoncez d'ailleurs en ces temps d'obscurcissement de l'horizon, vous listez un certain nombre de mouvements libertaires, alors pêle-mêle je les reprends à votre suite, les mouvements pour l'abolition du travail, les associations contre la vidéosurveillance, les fronts de libération de la terre et des animaux, les sans terre du Brésil, les assemblées de quartiers d'Argentine, les associations de défense de l'environnement, les mouvements gays et féministes, et puis vous concluez la liste par ces mots et quelques ratons laveurs. Daniel Ben Saïd, est-ce qu'on doit comprendre que toutes ces manières nouvelles, ou en tous les cas plus ou moins nouvelles, de faire de la politique vous font rire? Parce que, manifestement, vous ne semblez pas prendre très au sérieux toutes ces pratiques de résistance locale.
Si, non, au contraire. Alors peut-être que la formule apparaît comme ironique. Non, je crois qu'il y a des moments utopiques, et l'histoire est scandée de moments utopiques, qui sont des moments de fermentation, souvent d'ailleurs à des périodes charnières consécutives à des grandes défaites. Une grande période utopique dans l'histoire française a été celle des années 1830-1840, quand on a vu surgir les utopies saint-simoniennes, proudhoniennes, Cabé, Licari, etc. Et je souligne à quel point il y a des ressemblances, y compris dans les thématiques, entre ce nouveau mouvement utopique qui est consécutif à la chute du mur de Berlin et aux grandes espérances déçues du XXe siècle, mais qui est une fermentation féconde et nécessaire. Maintenant, je reprends à mon compte la formule, je vais encore citer Henri Lefebvre, décidément, qui définissait l'utopie comme le sens non pratique du possible, c'est-à-dire comme un possible entrevu, mais dont on ne conçoit pas encore les moyens de réalisation concrète ou de mise en pratique.
Justement, comment vous jugez par exemple le mouvement altermondialiste? Parce que si je vous ai bien lu, vous n'y croyez pas vraiment. Plus exactement, vous constatez qu'il fédère les protestations contre l'ordre existant, point positif selon vous, mais qu'il n'est pas porté par des forces politiques opérationnelles. Et là, selon vous, c'est négatif.
Non, c'est pas négatif. D'abord, je le juge d'autant moins que j'en suis partie prenante. J'ai participé à tous les premiers forums sociaux mondiaux et européens, et je me considère toujours partie prenante d'un tel mouvement. Mais ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a des auteurs qui pensent, qui ont voulu voir dans l'apparition de ce mouvement, qui est très important, après le reflux et la morosité des années 80, la renaissance d'un mouvement de résistance et de contestation, mais certains ont voulu y voir une espèce de grand sujet social de substitution. Le prolétariat nous a déçus. Non, c'est une mosaïque de résistance, en soi très importante, évidemment, mais qui, loin d'être homogène et d'être cette espèce de sujet majuscule de substitution, est traversée de projets politiques qu'il faut traiter comme tels, qui peuvent très bien cohabiter, il est souhaitable que ça continue, mais si on prend le prochain forum social mondial qui aura lieu à Belém au Brésil, il est probable qu'ils feront leur apparition, aussi bien Lula, président du Brésil, que Chavez, président du Venezuela, ou Morales, président de Bolivie, et ce ne sont pas les mêmes politiques. Donc, il faut pas, en gros, s'imaginer qu'on a déjà un mouvement homogène de sorte que les débats seraient résolus. Il faut, au contraire, ça a été un premier moment de résistance. D'ailleurs, c'est des forums sociaux. Le terme n'est pas choisi par hasard, ce qui voulait dire une mise à distance de la politique et des organisations politiques. Or, on voit que la politique, ces dernières années, revient en force parce que les luttes sociales en elles-mêmes ne débouchent pas ou butent sur la question du pouvoir, du gouvernement. C'est un des sujets des polémiques du livre. Et là, on retombe sur les questions de stratégie politique qui ne peuvent pas être censurées au nom d'un consensus, même dans le mouvement altermondialiste. C'est de ça qu'il est question.
Justement, on peut changer le monde sans prendre le pouvoir ?
Eh bien, ça fait allusion au titre d'un livre qui, d'ailleurs, paraît ces semaines-ci en France, de John Holloway, qui est un économiste écossais enseignant à Puebla, au Mexique, qui a eu un certain écho, notamment en Amérique latine, sous le titre « Changer le monde sans prendre le pouvoir », qui est un titre manifeste, évidemment, partant de l'idée que les tentatives de s'emparer du pouvoir comme levier pour changer le monde au XXe siècle n'ont rien donné de concluant et ont plutôt produit des caricatures ou des contrefaçons, voire des tragédies. Si on pense à ce qu'a été le stalinisme sous une autre forme, bon, et dans les pires formes, y compris ce qui s'est passé au Cambodge avec les Khmers rouges. Bon, mais inversement, ne pas prendre le pouvoir a pas non plus prouvé qu'on pouvait changer le monde. Les expériences interstitielles, il n'y a pas de dérision, contrairement à ce que vous croyez, mais la simple addition, c'est ça que je voulais dire, d'expériences de contre-société qui ne convergent pas dans un projet commun, dans la construction d'une hégémonie alternative, ne parviennent pas non plus. Il y a une loi de reproduction du capital, de reproduction de la domination, qui finit par emporter ces expériences-là. L'IP, c'est très important, mais l'IP ne suffit pas à en finir avec la loi du marché, etc. Et cette thématique, d'ailleurs, de Holloway, qui a eu un écho important en Amérique latine, apparaît déjà datée aujourd'hui, parce que ça n'apporte aucune réponse aux questions pratiques qui sont posées aujourd'hui dans les sociétés en crise comme le Venezuela, la Bolivie ou plus récemment encore l'Équateur. Donc voilà ce que je veux dire, tout simplement.
Et la gauche française, Daniel Ben Saïd, parce que si j'ai lu cet éloge de la politique profane édité chez Albin Michel, qui est un livre parfois difficile, il faut le dire, hein, j'ai lu aussi un nouveau théologien, Bernard-Henri Lévier. Alors là, vous parlez plus que clair, BHL propose une gauche du moindre mal, on comprendra à mi-mot évidemment la social-démocratie, et vous lui répondez ceci: ce moindre mal, c'est plus d'une fois révélé être le plus court chemin vers le pire.
Écoutez, il n'y a pas besoin de remonter loin pour illustrer une phrase comme celle-là. Je crois qu'en 83, sous Mitterrand, Le Pen devait être à 4 ou 5%, et après deux gouvernements socialistes dans les années 80, deux septennats de Mitterrand et un quinquennat de Jospin, il s'est retrouvé à 17% en 2002. Voilà où a mené la politique du moindre mal. Bon, alors, l'éloge de la politique profane est un regard grand angle sur le statut de la politique dans les trois siècles écoulés et où on en est aujourd'hui. L'autre est plutôt un regard dans le microscope sur un événement et sur des circonstances immédiates. Leur thème commun, c'est effectivement le théologique et le profane. Vous avez cité tout à l'heure la phrase de Marx, nous voulons rendre des questions théologiques profanes et pas l'inverse. La sécularisation du monde est définie par un auteur comme Blumenberg comme une des caractéristiques de la modernité. Il y a à craindre aujourd'hui une inversion, et depuis que ces livres ont été écrits, c'est-à-dire tout récemment, quand même le discours de Sarkozy au Latran sur la recherche de réenracinement barésien dans les racines chrétiennes de l'Europe, ou encore la politique de civilisation, ne font que confirmer ce basculement de la politique vers la théologie.
Daniel Ben Saïd, dans justement un nouveau théologien, Bernard-Henri Lévy, vous faites plaisir, hein, là, vous accusez les intellectuels de gauche de s'empresser de secourir une gauche d'imposture, vous accusez la gauche actuelle de parler de rénovation sans nouveauté, de refondation sans mouvement. Bon, vous dites on assiste à la répétition du même. Mais dites, en quoi la LCR, la Ligue communiste révolutionnaire, alors voire même le PCF, mais passons, propose-t-il des idées neuves ?
Je vous ai dit tout à l'heure qu'on fait toujours du neuf avec du vieux, mais aujourd'hui, qu'on prenne les différents problèmes. La question de l'écologie, est-ce que c'est une idée neuve ? Le terme est apparu à la fin du 19e siècle, certainement pas une idée neuve. Mais si on veut prendre la question de l'écologie ou la question de la ville au sérieux, ça se pose au quotidien par le droit opposable au logement, ou encore dans les points avancés par Nicolas Hulot lors de la campagne présidentielle. Dans les 10 points, il y avait l'idée de rééquilibrer les rapports entre ville et campagne pour économiser la pollution urbaine par le biais des transports, etc. C'est pas tellement une idée neuve, elle était un des 10 points du manifeste communiste de 1848. Cette idée du rapport ville-campagne chez les déconstructivistes russes a été finalement une vieille idée dans le mouvement ouvrier. Mais pour que cette idée, neuve ou pas neuve, devienne pratique, il faut au moins soulever le problème de la spéculation foncière et immobilière, sans laquelle il n'y a pas de réorganisation urbaine concevable. Donc le droit au logement opposable ou le rééquilibrage ville-campagne pose la question de l'ordre propriétaire, et ça c'est un des fils conducteurs. Il n'est pas si neuf que ça. Finalement, c'est le capitalisme qui bégaye. J'ai fait un autre petit livre, je ne vais pas m'autociter, qui s'appelle « Les dépossédés », à propos des lois des pauvres du 19e siècle, qui, par loi, la fameuse loi des pauvres anglaise de 1834, interdisait les solidarités villageoises, y compris religieuses, pour jeter une force de travail sans défense sur le marché du travail nouveau. On assiste exactement, et à plus grande échelle, à un même processus aujourd'hui, c'est-à-dire privatisation des biens communs de l'humanité, la terre, l'air, l'eau, etc., le vivant, et en contrepartie, suppression des protections sociales pour créer, là encore, une main-d'œuvre exploitable à merci.
Daniel Ben Saïd, j'extrais cette affirmation de votre pamphlet « Un nouveau théologien Bernard-Henri Lévy ». Face aux dégâts des crises sociales et écologiques, l'urgence de changer le monde est plus pressante que jamais. Alors, je veux bien vous croire, évidemment, mais vous savez comment, vous ?
Non, mais il est d'abord important de se mettre d'accord sur le diagnostic. Est-ce que le monde tel qu'il va, avec le logiciel qui le détermine, va ou non à la catastrophe sociale, écologique et morale? Bon, on n'aura pas le temps de développer, mais pour moi, c'est ça le point de départ. Si je suis révolutionnaire, c'est pas par goût lyrique, justement, du grand soir ou des barricades. C'est parce que je pense que ce monde-là, aujourd'hui, fait peser une menace, non seulement sur la politique, mais simplement sur l'avenir d'une planète habitable et de l'humanité elle-même. Alors après, comment? Mais comment personne n'avait imaginé la prise de la Bastille avant qu'elle n'advienne, ni la Commune de Paris avant qu'elle n'advienne.
Vous pensez toujours que la lutte des classes est l'alpha et l'oméga de la politique ?
En tout cas, ça n'est une dimension nécessaire. La politique naît du conflit. Si la politique, comme dit Hannah Arendt, c'est la pluralité vit dans le conflit et par le conflit. Et la lutte de classes, j'en reviens à un passage que vous avez d'ailleurs cité, c'est une définition possible du conflit, c'est une des approches du conflit, pas exclusive. Il y a bien d'autres types de conflits, de génération, de sexe, de race, etc. Mais celui-là a une vertu structurante, c'est qu'il est universalisable. D'un point de vue de classe, il y a toujours de l'autre côté de la frontière, de l'autre côté du clocher, de l'autre côté de la chapelle, un autre soi-même. Il y a des solidarités transversales constructibles à partir de ce critère-là, alors que les conflits confessionnels ou raciaux, eux, conduisent à des affrontements sans compromis possible.
Eh bien, Daniel Ben Saïd, merci. Une dernière fois, je vais rappeler le titre de l'essai que vous venez de faire paraître chez Albin Michel, « Éloge de la politique profane ». À signaler également la réponse que vous avez faite au dernier livre de Bernard-Henri Lévy intitulé « Ce grand cadavre à la renverse ». Elle est publiée aux nouvelles éditions Ligne sous le titre « Un nouveau théologien, Bernard-Henri Lévy ». Voilà, si vous souhaitez de plus en plus d'informations, il vous suffit de nous écrire l'adresse de l'émission id@rfi.fr. Ce numéro d'idées a été mis en onde par Cyril Etienne et réalisé par Patricia Lecomte. Bonne lecture, très bonne semaine à tous. Deutsche Welle.